Radio Kapi.
Mesdames, Messieurs, voici l'ossature principale de votre journal. Cela fait exactement 8 ans que le colonel Mamadou Ndala Mustapha est assassiné le 2 janvier 2014 à Beni. Pour ce faire, les habitants de la ville de Goma et les membres de la famille du défunt ont voulu commémorer cette journée qui, selon eux, ne devrait pas passer inaperçue. Opéré des fistules obstétricales à l'hôpital général de référence de Kindu, une vingtaine de femmes ont reçu le week-end dernier, après leur traitement, un kit de dignité, dont de l'UNFPA. Quelques-unes d'entre elles expriment leur reconnaissance et satisfaction dans ce journal. Nous évoquerons également dans ce journal le bilan de l'Organisation des jeunes chrétiens en Afrique pour le développement qui intervient dans le domaine des résolutions des conflits à travers les négociations et médiations. Et pour en parler, nous recevrons avant la fin de ce journal Madame Mélanie Awizaye, chargée du genre dans cette organisation. Mesdames, Messieurs, merci de suivre ce journal présenté par Pierrot et Lameji et Mimi Kindo assure la mise en onde. C'est dimanche 2 janvier, cela fait 8 ans, jour pour jour, depuis l'assassinat, le 2 janvier 2014 à Beni, du colonel Mamadou Ndala Mustapha. Ces vaillants officiers congolais venaient juste de libérer la ville de Goma face à la rébellion du M23. Des tristes mémoires. Pour ce faire, les habitants de la ville de Goma et les membres de la famille du défunt ont voulu commémorer cette journée qui, selon eux, n'est de devrait pas passer inaperçu. Mathieu Ilunga Chamboui pour les détails.
Les habitants de la ville de Goma, en particulier et ceux de la RDC en général, se souviennent de la mort de celui que d'aucuns appellent le libérateur de la ville de Goma, envahi et dévasté par le M23 vers fin 2013. Les veuves et orphelins du feu colonel, se trouvant sur place à Goma, passent de leur côté la journée en méditation. Pour plusieurs groupes de jeunes à rencontrer au quartier tels que Katoï, Kayembe et autres, autour des effigies du défunt et images colorées sur le mur de maison, souhaitent entre autres choses, que l'État congolais érige un monument en mémoire de Mamadou Ndala Mustapha à Goma. Elvis Kaloum Smaili, un parent se trouvant dans les regroupements de jeunes.
Voir l'honneur qu'il a donné à toute la nation congolaise, le gouvernement doit créer un monument propre pour lui. Il est parmi les héros comme Mzé Désiré, comme Lumumba, lui aussi fait partie. Mamadou Ndala nous a libérés du M23. Il a risqué sa vie pour faire partie du M23, où tout le monde est conscient dans notre province, à notre gouvernement d'assister ses enfants. Ça fera partie de l'encouragement d'autres militaires qui sont au front.
Les veuves et orphelins rencontrés disent qu'ils ne l'oublieront jamais. Goma, Mathieu Ilunga Chambouyo Monachebe, Radio Okapi.
2 janvier 2014, 2 janvier 2022, 8 ans après, la population de Beni garde encore des souvenirs inoubliables du colonel Mamadou Ndala assassiné dans une embuscade sur la route Beni et Ringeti. Soldats du peuple, héros, martyrs sont là, les qualificatifs qu'elle colle à ses vaillants soldats et officiers des FRDC. Quelques-uns se sont exprimés au micro de Marc Marofimbo.
C'est une personne que je n'oublierai jamais dans ma vie. Surtout, il a pacifié la ville de Goma, le territoire de Rutshuru. Et jusqu'à aujourd'hui, les larmes continuent toujours à couler lorsque je pense à Mamadou Ndala. C'est un homme, un militaire exceptionnel que je ne saurais pas comparer aujourd'hui.
Mamadou Ndala, c'était vraiment un homme, un officier, vraiment un soldat, comme je peux appeler ce soldat du peuple. Nous gardons vraiment de lui de bons souvenirs. Parfois, nous nous disons peut-être que s'il était là, cette situation ici serait déjà finie. Je pense que c'est un martyr. C'est un martyr parce qu'il a versé son sang pour l'intérêt supérieur de la nation. Raison pour laquelle je peux dire que c'est un martyr comme d'autres qui l'ont précédé. Il est vraiment mort pour une cause noble.
C'est une grande personnalité. Pour nous, il nous a permis chaque fois franchir la route qui n'était pas franchissable. Et à ce jour, il n'est pas là et nous ne traversons plus cette route. Et nous sommes en train de dire que nous portons à cœur notre force armée, FARDC. Nous avons confiance en notre armée, mais nous avons besoin de cette paix afin que nous puissions aussi redonner sourire à Beni.
Les FRDC, les UPDF, la MONUSCO et la population sont quatre forces qui doivent agir ensemble pour la paix dans la région. C'est ce qu'a dit le porte-parole de l'armée ce samedi 1er janvier, réagissant à l'attente de la population sur les opérations en cours ainsi que les acteurs qui y sont impliqués. Il demande à la population d'être active dans ces opérations. Le capitaine Anthony Mualushaï est au micro de Marc Marofimbo.
les trois forces, FRDC, PDF, MONUSCO, je pense que là où notre mission se converge, c'est la paix. Et la quatrième force, c'est la population. À chaque instant, j'ai toujours dit que la population ne peut pas considérer ni la MONUSCO, ni FRDC, ni UPDF comme son adversaire. Donc nous avons un ennemi en commun, c'est les ennemis de la paix. Mai Mai, ADF. Donc nous sommes obligés de travailler ensemble. La MONUSCO, dans ses mandats, a la mission d'apporter un appui logistique aux opérations en cours, c'est-à-dire aux opérations menées par les FARDC. Et c'est qu'a toujours fait la MONUSCO de ce côté-là. Et parfois, la population est ignorante hein, des d'autres actions parce que la MONUSCO n'est pas obligée de tout mettre sur la place publique. C'est ce qui est opérationnel et reste opérationnel. Et il n'y a pas un observateur dans ce qui se passe dans la région des Béni. Tous nous sommes acteurs, population, MONUSCO, FARDC.
Dans la province du Maniema, les 20 femmes opérées de fistules obstétricales à l'hôpital général de référence des Kindu, après leur traitement, ont reçu chacune un kit de dignité, dont de l'UNFPA. La remise de ces kits a eu lieu le week-end dernier à l'hôpital lors de leur sortie. Ces femmes, qui certaines l'ont réalisé plus de 10 ans avec ces problèmes, ont eu des mots justes pour dire merci à UNFPA et à l'équipe soignante de l'hôpital général de référence des Kindu pour les avoir rendues plus propres. Écoutons quelques-unes d'entre elles au micro de Florence Kizalunga.
Moi, c'est Madame Colette Mbi. J'étais malade, ça fait 3 ans, mais par la grâce de l'Éternel, j'ai écouté un sifflet à la radio, et puis je suis venue ici à l'hôpital général, on m'a traité bien, sans problème, pour les problèmes de fistules. Vraiment, je remercie INFPA. Je suis guérie, je rentre à la maison aujourd'hui.
Je viens de réaliser 16 ans avec cette maladie. Grâce à UNFPA, je suis guérie. Je dis merci à Dieu, merci à tous les médecins de l'hôpital général qui fait l'intervention pour moi. Je dis merci. Je rentre aujourd'hui à la maison. Je reçois mes biens. Je dis merci, merci, merci. Je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie.
Je rentre bien à la maison. Je suis guérie. Je rentre avec mes cadeaux à la maison. Je remercie UNFPA pour son assistance.
Nous demandons à l'UNFPA de penser aux autres femmes comme ils ont fait avec nous.
Dans la province de la Tchopo, la situation sanitaire liée à la COVID-19 est très inquiétante. À titre illustratif, de 58 cas enregistrés à la 50e semaine de l'année dernière, le nombre des cas positifs est passé de 156 à plus de 278 respectivement à la 51e et 52e semaine de l'année 2021. Cette reprise de la notification s'est faite avec une vitesse prodigieuse de contamination au sein de la population. Face à cette situation alarmante, les gouverneurs les provinces par intérim a pris des décisions sécuritaires et mesures sanitaires en vue de stopper la propagation de cette pandémie dans sa juridiction. Maurice Abibou Sakapela les a annoncés dans un message adressé à la population de la Tchopo la veille du nouvel an. Ces propos sont recueillis par Jacques Moukonkole.
1. Je demande instamment aux différents services de l'ordre et de sécurité, notamment la police nationale congolaise, l'agence nationale des renseignements, la direction générale de migration, ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo, de respecter et de faire respecter scrupuleusement toutes les mesures barrières, ainsi que du respect du couvre-feu qui s'étend de 23h à 5h du matin. 2. L'interdiction formelle d'organiser les veillées de prière à travers les différentes églises ainsi que toutes les autres manifestations à caractère festif ou non en vue de stopper la propagation irrésistible de COVID-19 en cette période cruciale liée à la 4e vague. Toute personne qui va enfreindre les mesures ci-haut sera soumise aux sanctions et amendes. Ainsi donc, en cette période cruciale liée à la résurgence de la COVID, je lance un appel pressant, solennel et patriotique à toute la population de la province de la Tchopo de faire comme moi en se faisant massivement vacciner.
Au Kasaï central, l'hôpital provincial de Kananga bénéficie d'un scanner, des matelas, une table opératoire et d'autres accessoires. Un don de la fondation SOCAM. La fondatrice de cette structure, qui indique l'avoir fait à l'occasion de la visite du chef de l'État dans la région, explique avoir le souci de l'accompagner dans sa vision, qui est celle de donner à la population l'accès aux soins de santé de qualité. L'objectif est aussi de permettre au centre kasaïen de se faire soigner sur place. Elphine Kakudi Kabupumoyo est au micro de François Kadima.
Moi-même personnellement, en suivant tous les discours de M. le Président, il parle de la santé. Les pauvres ou les riches doivent avoir les mêmes qualités de soins médicaux. Nous ne pouvons pas le faire sans les outils nécessaires. Et pour nous, l'équipe que nous avions dépêchée à l'époque pour prospecter les besoins, ils nous avaient ramené les besoins d'un scanner. Parce que les patients devaient quitter Kananga pour Kinshasa ou pour Lubumbashi. Et à cela, on s'est dit rajouter les coûts des billets et de la restauration au logement. Du coup, les patients se sentent asphyxiés avant même qu'ils soient examinés. Et même quitter Kananga pour aller à Kinshasa, c'est énorme pour les patients de chez moi. Du coup, nous sommes restés focus pour un scanner sur l'espace Grand Kasaï.
Au Kasaï oriental, la fête de fin d'année s'est passée bien au quartier Boubangi dans la commune de Djoulou. Depuis deux jours, certains ménages reçoivent la viande de bœuf, dont de la fondation Pandawetu, du ministre national de la recherche scientifique. Esther Ndarfina pour le reportage.
C'est depuis deux jours que certains ménages reçoivent quelques kilos de viande de bœuf pour célébrer la fête de la Saint-Sylvestre, don de la fondation Pandawetu. Jimmy Panda, coordonnatrice nationale de la fondation, explique le but de ce geste.
Pour le ministre José Panda, il a toujours eu l'habitude de fêter avec la population. C'est ainsi que il a pu acheter les vaches pour manger avec la population.
Les bénéficiaires remercient le bienfaiteur. C'est le cas d'Adolphine Tumbaka Bongo.
Je suis contente d'arriver aujourd'hui chez le ministre. Il nous a donné la viande. Je suis contente par ses gestes.
Clémentine Moulanga est aussi du nombre.
Nous attendons la viande pour fêter. Le ministre a pensé à nous en cette fin de l'année. Nous lui disons merci et lui souhaitons une bonne année. Que Dieu les garde.
D'autres femmes ont reçu les pagnes pour fêter le nouvel an. Esther Ndalafina Mbujimaï, Radio Okapi.
Et dans le Nord Kivu, un dîner humanitaire organisé par la Fondation internationale des secours et d'amitié, une ONG des Nations Unies, en faveur de centaines de personnes infortunées à Goma. C'est pour illustrer la célébration de la fête pour la nouvelle année avec cette catégorie des personnes vulnérables, dont les veuves, les orphelins, les personnes vivant avec handicap et les personnes de troisième âge. Mais pourquoi le choix et cette délimitation des personnes pour festoyer à côté des Fassis IRF à Goma? Réponse avec les directeurs pays de cette organisation, Jean-Albert Kumuimba Kabongo. Il est au micro de Mathieu Ilunga Chamboui.
Un dîner humanitaire, c'est quelque chose que je fais au nom des vulnérables vivant dans la ville de Goma, des orphelins, des veuves, des handicapés tant physiques que mentaux et les personnes de troisième âge. Ces gens que vous voyez qui ne se sentent pas délaissés par la population ou bien par les autorités, non. Ils sont des enfants comme tous les autres enfants qui ont leurs parents. Et les vieillards, personne ne pouvait rester jeune. Les handicapés, ils n'ont pas voulu être dans cette situation-là. Ils sont dans la communauté où il y a encore beaucoup de personnes qui pensent à eux et qui ne se sentent pas diminués et inférieurs aux autres. Ils doivent être à l'aise comme tous les autres. Pendant les fêtes comme ça, beaucoup d'enfants sont derrière leurs parents. Mais ces orphelins, qui va faire pour eux? Si nous nous mettons ensemble, nous allons mettre ces enfants à l'aise pour qu'ils puissent oublier qu'ils sont dans cette situation-là. C'est pourquoi, quelle que soit la petitesse de notre moyen, nous allons partager avec tout le monde qu'ils oublient qu'ils sont orphelins. Et ces vieillards-là qu'ils oublient qu'ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas voulu être ce qu'ils sont.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, un incendie touche depuis ce dimanche matin le Parlement dans la ville des Caps. Selon la ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Patricia Delisle, présente sur place, le feu est désormais sous contrôle. Le feu s'est déclaré très tôt, vers 5 heures locales. On ignore pour l'instant les causes de l'incendie. L'ancien président guinéen Alpha Condé peut désormais quitter son pays et pouvoir consulter ses médecins à l'étranger à condition que ses déplacements n'excèdent pas un mois sauf avis contraire de son médecin. Les nouveaux maîtres de Conakry ont accédé ainsi à une demande de la CDAO qui ont adressé un courrier au colonel Mamadi Doumbouya le 23 décembre 2021.
L'invité.
C'est Madame Mélanie Awezaye qui est en charge du genre dans l'Organisation des jeunes chrétiens en Afrique pour le développement. Et elle présente un bilan positif des activités menées l'année dernière par son organisation dans le domaine des résolutions des conflits à travers les négociations et la médiation. Mélanie Awezaye s'entretient avec Mathieu Ilunga Chamboui.
Madame Mélanie Awezaye, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous voulez parler des activités menées pendant presque une année. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre bilan?
L'activité principale qu'on a organisée à plusieurs reprises, c'était l'organisation des séances, des ateliers de formation des jeunes filles et des femmes, des jeunes mamans. C'était pour les former autour de la médiation et de la négociation. Parce qu'on a compris que dans notre milieu, surtout dans notre province, nous sommes en train de vivre des guerres et ça détruit nos communautés, ça nous détruit, ça étouffe l'épanouissement, ça étouffe le développement. Alors on a jugé bon de commencer à former les femmes et les filles parce que ce sont elles qui sont beaucoup plus victimes dans des situations de guerre, mais aussi ce sont elles qui doivent contribuer beaucoup plus au développement que nous sommes en train de chercher et à la paix dans notre province et dans notre pays.
Alors nous comprenons que vous avez aidé plusieurs femmes dans la résolution des conflits à travers la médiation et la négociation. Comment considérez-vous votre bilan?
À notre niveau, nous considérons que le bilan est positif. Parce qu'au cours des séances, au cours des formations, on a informé les gens, on les a beaucoup plus incités à pouvoir contribuer à la paix. Et il y a des gens aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui qui sont prêtes à former les autres. Il y a même ceux qui ont pris des engagements pour pouvoir se prendre en charge, pour pouvoir s'encourager dans l'autonomie de la femme, pour pouvoir créer des AGR et participer au fait au développement. Parce que vous pouvez comprendre avec moi que lorsque une femme ne fait presque rien, elle est ménagère, elle est une fille à la maison, elle est en train de contribuer aux violences que nous vivons dans notre milieu. Mais nous considérons que notre bilan est positif parce que ces femmes ont pris l'engagement.
Il y avait aussi la campagne contre les armes légères, petit calibre, tout ça. Vous vous n'êtes pas lancé aussi dans cette activité?
En fait, c'est une activité spécifique, secondaire, si je peux le dire. La lutte, on est en train de sensibiliser gens lutter contre l'utilisation illicite des armes, petit calibre, les armes légères. Et cette campagne aussi, nous sommes en train de la mener. On est en train de continuer, mais on a renforcé la sensibilisation l'année passée, cette année. On pense qu'on va continuer à le faire pour les années qui viennent parce que c'est encore à faible niveau. Donc, même s'il y a quelques personnes qui ont abandonné les groupes armés, mais c'est pas encore suffisant jusque-là.
Qu'est-ce que vous avez trouvé comme avantage en menant cette activité a aidé les femmes dans la négociation et la médiation?
L'avantage que nous avons trouvé dans cela est que lorsqu'on contribue à la cohabitation pacifique, on est en train de contribuer à cette lutte mondiale, de pouvoir instaurer la paix, de pouvoir avoir la paix, de pouvoir contribuer au développement, d'accéder à un certain niveau de vie. Parce que lorsqu'on vit dans des guerres, dans des situations de conflit, on se retrouve coincé quelque part. Maintenant, quand on contribue à la paix, quand on contribue au développement, on se sent épanoui, on sent qu'on est en train de se battre pour une cause noble, une cause pour laquelle le monde entier se bat. Pour nous, c'est vraiment un avantage. Bon. Lorsque ces femmes qu'on a formées, elles prennent l'initiative de pouvoir avoir des agères, de pouvoir s'initier dans des activités pouvant contribuer à l'économie, pouvant contribuer au bien-être de leur famille d'abord, c'est déjà un avantage pour le développement. Parce qu'on ne sera pas beaucoup plus dépendante lorsqu'on gagne quelque chose. On prend soin de soi-même et on peut peut-être scolariser même les enfants. On peut contribuer même pour des choses qui ne marchent pas, en fait, au niveau de la commune, du quartier, au niveau de l'avenue, et on contribue aussi pour la réhabilitation au niveau national qui est le plan de notre président.
Et quelles sont les difficultés que vous avez connues au cours de cette année?
Il y a plusieurs défis, mais le manque de moyens financiers suffisants, c'est un plus grand défi dans l'exécution de nos activités sur terrain.
Donc, est-ce que nous pouvons avoir un peu les statistiques des personnes personnes qui ont été formées?
Aujourd'hui, on peut présenter au moins 80 femmes qui sont capables de former les autres. Il y a peut-être 70 femmes qui ont déjà pris l'engagement. Le problème, c'est les moyens. Mais on peut avoir 20 femmes qui ont des petites activités qui génèrent déjà des revenus. On a le projet de créer un centre de formation professionnelle. Tout cela pour voir où est-ce que ça nous amène en 2022.
Madame Mélanie Aweza, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
D'accord.
Et merci à vous aussi pour votre fidélité à la fréquence de la paix. Ce journal a été mis à nom de par Mimi Kindou, Pierrot et la Meiji vous l'a présenté. Il a été coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Ben Kabamba. Mais l'ensemble de nos informations sont sur www.radiokapi.net.